Chapitre 21. Diego. Je me doutais que Nabila serait partante pour l'option émerveillement. J'espérais qu'Anna le serait aussi, mais je ne pensais pas que les autres s'emballeraient autant pour l'idée. Il se passe définitivement quelque chose entre nous, un peu comme si nous devenions une sorte de famille dysfonctionnelle, bigarrée, bizarre, mais attachante. Je me réjouis de leur faire découvrir ce que je préfère à Tenerife. À 10 heures, nous sommes au large de la côte ouest. Nous longeons les stupéfiantes et bien nommées falaises verticales de Los Gigantes, tombant à pic dans l'océan, mesurant jusqu'à 600 mètres de haut. Ces blocs de basalte monumentaux ne sont brisés que par quelques ravins étroits. Combe trouve la juste comparaison lorsque nous nous approchons de la minuscule plage de Masca. On a l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Végétation luxuriante, nature sauvage, gorge en forme de dague aboutissant à un ponton de pierre posé sur une eau transparente, le tout dans un isolement complet. Combe a raison. Le lieu flanque des frissons et constituait d'ailleurs autrefois l'un des plus fameux repères de pirates de l'île. Nous sommes au mois de décembre, il ne fait pas si chaud que ça. Alors même si le capitaine de notre embarcation touristique propose un plongeon, aucun d'entre nous ne s'y risque. Nous continuons donc notre navigation vers le clou du spectacle. Assis à côté d'Anna, je ne perds rien de la féerie de l'instant, lorsqu'apparaît la courte nageoire dorsale d'une baleine pilote, bientôt suivie d'une dizaine d'autres. Anna l'aperçoit la première, se dresse et sourit. Bérénice et Axel sont comme des fous. Combe brandit son portable tandis que Nabila pousse des petits cris stridents. Le bateau, équipé des protections nécessaires pour ne blesser aucun animal, tourne au ralenti. Et le cortège est bientôt rejoint par quelques dauphins qui s'amusent à effectuer de minuscules sauts autour de nous. J'ai déjà vécu cette découverte 2 fois, mais c'est toujours la même émotion. Et puis la magie monte d'un cran encore. Le capitaine nous tend un casque et une tablette tactile, tandis qu'une sonde et une mini-caméra sont plongées dans l'eau. Chacun de nous pourra observer et écouter le ballet lent et merveilleux, le tout étant rythmé par les références cinématographiques de Nabila.
« Oh, comme tu es beau, mon flipper, viens voir Tata Nabila !»
Ou encore « Voilà, c'est ça, parle-moi encore, mon petit Willy !» C'est avec les yeux, les oreilles et le cœur rempli de cette nature préservée que nous nous dirigeons vers le nord de l'île et sa capitale pour le déjeuner. À Santa Cruz de Tenerife, nous nous garons à proximité du célèbre auditorium, dont le grand arc de béton défiant la gravité rappelle celui de l'Opéra de Sydney. Il est 13 heures, encore un peu tôt pour les restaurants espagnols, alors en attendant, nous déambulons, le nez levé vers les bâtiments historiques, comme cette imposante église Nuestra Señora de la Concepción, dont les murs blancs contrastent avec les pierres noires de sa tour carrée. Dans les rues pavées de la ville, Anna ne cesse de prendre des photos, apparemment séduite par les élégantes façades multicolores. Et puis nous nous attablons à la Bodeguita del Medio, ce lieu qui me donne toujours l'impression d'être à Cuba, tant les propriétaires aiment à faire partager la culture de leur pays. Nous entonnons Guantanamera avec les autres clients, et partageons des papas arrogadas con mojo, ces pommes de terre ridées accompagnées de leur sauce verte et rouge, tout en dégustant un étonnant vin iodé provenant d'une cave sous-marine. Lorsque nous sortons du restaurant, il est plus de 16 heures. Bérénice et Nabila tiennent à passer au marché central de Santa Cruz, afin de faire le plein de liqueurs de bananes et de cactus à rapporter en France. Puis nous reprenons la route. Dans le van que conduit Bérénice, la plupart des passagers entament une petite sieste. Anna s'endort, le cou en arrière, et puis progressivement sa tête glisse jusqu'à se poser sur mon épaule. Cette proximité, la chaleur de son corps et son parfum si proche, me paralyse. Je n'ose plus bouger pendant de longues minutes. Quand elle rouvre les yeux, elle se redresse en s'excusant. Je lui chuchote qu'elle peut rester comme ça si elle le souhaite. Mais elle ne répond pas et baisse les yeux, gênée. Le soir venu, Hanson nous explique que le départ sera à 7h demain matin et qu'il nous faudra prendre des habits chauds, notre matériel de camping, de la nourriture et de l'eau pour 3 jours. Il précise également que je dois être équipée de ma prothèse tout-terrain. Nabila tente d'en savoir plus, mais c'est peine perdue. Ted ne dira plus rien. Ce n'est pas pour me déplaire, car je suis plutôt du genre à apprécier les surprises. En parlant de surprises, j'ai pensé à quelque chose. À vrai dire, c'était l'activité collective prévue pour ce soir. Activité dont je n'ai pas révélé la teneur, mais qui a été balayée d'un revers de la main par tout le monde, lorsque Hanson a mentionné l'horaire de départ du lendemain. J'ai insisté, mais ils n'ont rien voulu savoir. La veillée est donc annulée, et lorsqu'à 22h chacun regagne sa chambre, il me semble voir Nabila entrer dans celle de Côme, et Bérénice s'attarder sur le pas de celle d'Axel. Je décide d'attendre quelques minutes avant d'aller toquer chez Anna. Elle a déjà sa brosse à dents dans la bouche.
Diego, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?
Je ne résiste pas et lui réponds avec la même diction.
Je me disais que tu serais peut-être plus motivé que les autres pour sortir.
Elle rit. Un filet de dentifrice coule le long de son menton. Elle court se débarbouiller. Quand elle revient, j'ai l'impression qu'elle s'est recoiffée aussi.
Tu avais pensé à quelle excursion ?
Sa question m'indique qu'elle n'est pas opposée à l'idée. Je me lance. Je ne sais pas si tu le sais, mais le ciel de Tenerife est l'un des meilleurs spots d'observation des étoiles dans le monde. Il y a, dans le parc national du Teide, un observatoire astronomique dernier cri. J'avais convaincu le responsable de nous faire une petite visite ce soir. Ce serait vraiment dommage de perdre le créneau. Si tu es partante, il nous faudra qu'une petite heure pour y parvenir. Elle se mordit la lèvre et m'observe en silence. Signe d'hésitation. Je continue à argumenter. C'est un environnement unique là-haut. Il existe une loi locale très poétique qu'on a appelée la loi du ciel et qui contrôle la pollution lumineuse. L'observatoire étant au-dessus des nuages et isolé de toute autre construction, c'est l'un des endroits de la planète où le ciel est le plus pur. On peut y admirer les étoiles comme il y a 200 ans. Et puisqu'on est bien plus au sud, il y a des constellations que l'on ne peut pas voir depuis l'Europe. Elle réfléchit. Mais elle est tentée, c'est visible. Alors, je joue mon va-tout. Leur télescope est d'une puissance dingue. Il est équipé de l'un des plus grands miroirs du monde, ce qui signifie qu'avec cet appareil, tu pourrais en théorie voir une bougie allumée à 10 fois la distance Terre-Lune. J'ai tout donné, et je vois qu'elle apprécie l'effort de conviction. Elle me sourit. C'est gagné.
Ok. Mais c'est uniquement parce que j'adore les bougies, hein?
Évidemment. Et un peu les étoiles aussi. Un peu les étoiles aussi. Je ne peux pas savoir ce qu'elle en pense. Mais pour moi qui ai déjà eu la chance de venir ici à plusieurs reprises, le ciel de Tenerife provoque toujours la même émotion. À travers le télescope, la planète Vénus nous apparaît parfaitement nette, trônant au sein d'un noir profond tirant sur le rouge qui comprend littéralement des milliers d'étoiles. C'est si beau qu'aucun mot n'est nécessaire. Le responsable nous laisse observer une bonne dizaine de minutes à tour de rôle, puis il lance à Anna, en français mais avec un très fort accent espagnol, un « c'est magnifique » qui nous fait bien marrer. Nous le remercions chaleureusement et sortons nous installer à proximité, à quelques pas d'un groupe d'astrotouristes admirant la voûte céleste. Pas besoin d'instruments, le spectacle est déjà ahurissant à l'œil nu. Anna et moi nous enroulons chacun dans un plaid et nous restons longuement silencieux, contemplant l'infini du ciel. Je suis heureux de partager ce moment suspendu avec elle. Je le lui dis, et puis j'ajoute, le cœur battant, que j'aimerais qu'il soit le premier d'une longue série. Elle me répond qu'elle aussi est heureuse à mes côtés. Elle hésite, et puis elle ajoute qu'elle est nettement plus âgée que moi, que nous n'en sommes pas au même stade de notre vie, que ça ne pourrait pas fonctionner entre nous. Je m'attendais évidemment à cette résistance conforme aux carcans les plus ancrés dans nos sociétés. Alors ma réponse est toute trouvée et étayée scientifiquement, on ne se refait pas.
Nous avons 13 ans d'écart. Sachant qu'une femme vit en moyenne 7 ans de plus qu'un homme, il te reste environ 38 années à vivre. Et il m'en reste 44. En mangeant sainement et en faisant du sport, disons que tu gagneras 4 ou 5 ans. Et nous voilà à égalité. Ce serait dommage de passer à côté des 40 prochaines années pour une question aussi triviale, non ? Elle rit. Je fonds. Ok, tu as bien préparé, bravo. Mais il n'y a pas que ça, Diego. Tu ne me connais pas vraiment ? J'en connais suffisamment. Non, tu ne sais pas. Quand tu sauras, tu ne seras plus intéressé. Alors raconte-moi, s'il te plaît. Ne décide pas à ma place quelle sera ma réaction. Elle réfléchit longuement tout en continuant à regarder le ciel. Et puis soudain, sans autre forme d'introduction, elle se met à raconter. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais compris que, comme moi, Anna avait vécu des choses difficiles. J'avais imaginé une séparation complexe avec son ex-mari, des conflits familiaux, un problème de santé qu'elle-même aurait surmonté, un accident ou tout autre événement traumatique. Mais je n'avais pas imaginé qu'elle s'était occupée si longtemps d'un enfant malade. Cette révélation m'a ébranlée. Aussi ai-je eu un réflexe contraire à mes intentions premières. J'ai bien senti qu'elle aussi éprouvait quelque chose, d'autant qu'elle s'était serrée contre moi au cours de son monologue. J'aurais dû saisir l'instant. Mais je me suis dérobée. Tout juste ai-je bredouillé. « Anna, ton histoire me touche beaucoup. Tu es passée par tellement de choses terribles. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolée. Je crois qu'il vaut mieux repartir si on veut être en forme demain. » Et puis je me suis levée et nous sommes rentrés en silence. Ma réaction a été viscérale. J'ai eu peur du lien qui pourrait s'opérer dans le cerveau d'Anna entre son fils disparu et moi. Or, ce que je veux aujourd'hui, c'est une relation amoureuse entre adultes. Je ne veux en aucun cas prendre dans son cœur la place laissée vacante par son fils. Et le fait qu'elle se rapproche de moi au cours de cette confession, je ne sais pas, mais j'y ai vu un symbole. Cette femme ne t'aimera jamais toi, elle aimera l'homme plus jeune et abîmé que tu es. J'étais incapable d'affronter ce qui se jouait en moi à cet instant précis, alors j'ai fui comme un pleutre. Ensuite, j'ai réfléchi toute la nuit à la question et aussi à sa réciproque. Et moi, suis-je bien attiré par la femme qu'elle est, et non par la figure maternelle qu'elle pourrait représenter? Pour moi, la réponse est claire et catégorique. Je n'ai simplement jamais pensé à elle en ces termes. Ma propre mère à 20 ans de plus qu'elle. Et puis Anna ne materne personne ici, mais certainement pas moi. Non. Quand je pense à Anna, je pense à nos passions communes, à cette soirée sous les étoiles qui avait si bien commencé, à la douceur de sa peau et à la finesse de ses traits, à son humour, à sa capacité à s'adapter à toutes sortes d'interlocuteurs et de situations avec intelligence. Je m'imagine l'embrasser, la serrer dans mes bras, lui faire l'amour dans cette maison, sur la plage, chez moi à Barcelone, chez elle en Provence, partout. Et tandis que j'énumère tout ça, tandis que mon désir pour elle ne cesse de croître, je me sens extrêmement con. Au fond, si je viens de laisser passer cette femme, n'est-ce pas parce que moi, je ne me sens pas suffisamment bien pour elle ? N'est-ce pas parce que j'ai laissé les clichés dominer ma pensée? Ce qu'il lui faut, c'est un homme solide. Elle mérite mieux qu'un handicapé incapable de s'aimer lui-même. Elle mérite mieux que moi. Et si je me trompais sur toute la ligne? Et si quelque chose de sain, de beau, de lumineux était possible entre nous? En ce petit matin de nuit courte et agitée, je ne sais plus quoi penser. Mais je me sens honteux d'avoir réagi de la sorte. Lorsque je la croise au petit déjeuner, son accueil est glacial et c'est bien compréhensible. Je tente d'engager la conversation, mais elle prétexte devoir finir de se préparer pour filer dans sa chambre. Les autres ont l'air en forme, Nabila me semble de plus en plus tactile avec Côme. Bérénice paraît plus préoccupée par les propos d'Axel que par son fils, ce qui constitue une petite révolution. Quant à Hansen, il nous demande de le rejoindre dans le jardin d'ici 15 minutes, prêt au départ.
Espace, ton univers impitoyable! La lumière de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, met 8 ans à nous parvenir. Sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. Bonne ambiance. Sans air, les vibrations du son ne circulent pas. Vous pouvez donc envoyer dans l'espace tous les chanteurs que vous détestez.